Nous sommes arrivés en ce mercredi soir 23 juillet dans notre étude du Cantique des Cantiques, suivant toujours ce thème qui donc est Dieu au chapitre 4, et nous vous avions donné les versets 8 à 11 à méditer pour ce soir. Je vais relire ces textes depuis le verset premier. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil écarlate, et ta bouche est agréable. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour y suspendre des armures, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les lys. Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mise et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et en toi, il n'y a point de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir, et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, car par l'un des colliers de ton cou. Que de charme ont tes yeux, ma fiancée, que tes amours sont meilleurs que le vin et l'odeur de tes parfums plus que tous les aromates. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel. Sous ta langue, il y a du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Encore une fois, Dieu notre Père, nous implorons ton secours, la puissance de ton esprit, afin que cette soirée marque dans nos vies et que le nom du Seigneur Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, soit glorifié. Que nous puissions, devant tout cet amour qu'il nous manifeste, répondre de mieux en mieux à cet amour. Et que ce soir, nous soyons comblés. Nous te le demandons dans l'humilité, mais dans la certitude que tu es un Père qui nous répond toujours dans le nom de ton Fils bien-aimé, en qui maintenant nous trouvons notre plaisir et notre joie. Amen. En faisant le tour du camp ce soir, j'ai subitement entendu cette parole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13e. Jésus vient d'exposer cette parabole à ses disciples. Donc, des vérités profondes sous un langage imagé. Et il leur dit, au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Et ce « Avez-vous compris toutes ces choses ?» a résonné dans mon cœur en pensant à vous tous qui êtes ici, dans ce camp, étudiant à l'école de Jésus, car c'est bien à l'école de Jésus que nous sommes, suivant les règles qu'il nous a enseignées. Je me suis demandé, ont-ils compris ou avons-nous compris tout ce qu'il a voulu nous dire? Quelle a été la réponse des disciples? Oui, répondirent-ils. Est-ce que vous pouvez dire ce oui? Il est possible que vous n'ayez pas tout compris. Mais ce que j'ai à cœur de vous souligner ce soir, c'est que ceux qui étaient à l'ouverture de ce camp ont entendu les paroles que nous vous avons données de la part du Seigneur. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et la troisième, cherchez et vous trouverez. Alors, vous êtes en train de lire un texte, vous ne comprenez rien. Mais le Seigneur a dit, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits-enfants. Si je ne comprends rien, c'est que je complique trop les choses. Je devrais prendre les choses plus simplement. Alors on va relire, puis on va essayer de comprendre encore plus simplement. On ne va pas chercher midi à 14h. Et on va supplier le Seigneur de nous éclairer et de nous garder d'une fausse interprétation ou de tout ce qui pourrait venir de notre imagination. Et nous lui demandons, purifie notre cœur. Je vous dis cela seulement pour vous encourager à continuer. Et maintenant, peut-être que je devrais vous donner tout de suite la parole, puisque vous avez compris toutes ces choses. Qu'avez-vous compris cet après-midi dans votre lecture ou dans votre relecture, puisque nous avons pu reprendre depuis le verset premier? Oui. C'est magnifique, oui.
Puis au verset 9,
je suis content que tu aies vu ça.
Au verset 9, il dit, tu m'as ravi la clare par l'œil de tes yeux. On ne connaît pas pourquoi il se je me suis dit, dans le fond, on, quand dans notre communion personnelle, on ne regarde pas le Seigneur, même si on devient on devient dans la même famille, on ne regarde pas le Seigneur en face, on fait devant sa face, mais on regarde comme un œil consterné en même temps.
Bien sûr. Et puis si on devait en perdre un, heureusement qu'on en a encore un qui peut ravir son cœur. Il y a des bornes. Ceci n'est à peu près comme cela. Alors, quelqu'un d'autre. A pu être touché par un verset. Plus fort.
Pour à propos de un œil voyageant avec mon cœur, le Seigneur avait la vie de mon cœur, et la vie de mon cœur, c'est 21 jours de vie.
Oui.
J'ai beaucoup, beaucoup d'amour au travers de tout ce que je pense. J'ai senti l'amour du Seigneur au travers de tout ce que je pense.
Un seul de ses regards. Et nous avons tellement de regards. Et nous louchons si souvent vers le monde. Oui?
C'est là où j'ai senti qu'il y avait vraiment un équilibre dans la nature entre les animaux et c'est pas les, les petits animaux, mais les lions, les léopards, et l'homme et sa femme. Et ça m'a beaucoup touché, je ne sais pas où pourtant. J'ai vu dans la parole, mais ça m'a touché beaucoup que tout est en équilibre.
Oui.
Et on a pas mentionné qu'il y avait une culture élevée qui préparait les animaux.
Oui, il y a peut-être une autre pensée encore. Si on cherche toujours à donner une interprétation qui soit en accord avec l'ensemble de l'écriture. Alors, il faut savoir si dans les lions de ces tanières, nous avons des amis pour nous, ou des ennemis. Si dans les léopards sachetés de la montagne, nous devons voir un danger que nous n'avions pas prévu, tu comprends? Alors ça, nous allons le voir. Mais il est évident que le Seigneur est au-dessus de tous les animaux et que c'est lui qui les domine. Et c'est très frappant. Au sujet des lions, quand ils le veulent, ils ferment leur gueule au lieu de manger Daniel, et Daniel peut s'endormir sur le dos des lions. Quand ils le veulent, pour punir un homme de Dieu qui n'a pas marché droit, il envoie un lion qui le tue, mais qui laisse en vie son âme. Dieu a différents moyens, mais Satan lui-même aussi est considéré comme un lion rugissant et déchirant. Alors il nous faut toujours voir dans le contexte ce que, quel sens nous pouvons donner à ces passages. Quelqu'un d'autre?
Oui. C'est toute belle, mon ami, et en soi, il n'y a pas les défauts. Ça montre la perfection de salut. Et il dit, c'est pour cela aussi que je peux sauver parfaitement tous ceux qui s'attendent par lui.
Oui, Hébreux 7, oui. L'œuvre du Seigneur est parfaite. Et il se présentera un jour sans église, sans tâche, ni rite. Mais rien de semblable. Alors, il la voit déjà telle qu'elle sera. Nous, nous la voyons encore fatiguée, comme nous aurons l'occasion de le souligner dans un autre passage. Elle monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé. Elle a des taches, elle a des rites. Mais pour le Seigneur, il la voit déjà telle qu'elle sera. Et c'est cela qui est merveilleux. Quelqu'un d'autre?
Dans le verset 8, il dit, viens avec moi, et le Seigneur nous appelle à venir avec lui. Ce n'est pas qu'on demande, Seigneur, viens avec moi, mais on marche le chemin du Seigneur par notre chemin.
Oui, et ça c'est très beau. On va souligner cette pensée du « viens avec moi », trois petits mots. Il y a « viens à moi », la première fois, hein. On va à lui, puis après, c'est lui qui nous dit « viens avec moi ». Et c'est merveilleux de pouvoir faire tout avec lui. Et quand on est avec lui, que pouvons-nous craindre? C'est là la grande question. Si nous sommes avec lui, il y aura des dangers, oui, les tanières des lions, les lions peuvent surgir, mais le Seigneur est là, qui a vaincu tous les ennemis. Mais il faut que nous soyons avec lui. Parce que sans cela, nous pourrions être en danger, même quand on se trouve sur des hauteurs spirituelles. Ces trois montagnes dont il est question. La Manna, le Cénitre et l'Hermon. De penser. Oui.
Au verset 9, là, quand c'est dit, tu m'as ravi le cœur, ma soeur, ma fiancée, tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de son œil, là, on pourrait dire, ouais, okay, que qu'elle a regardé vraiment droit au Seigneur et qu'elle s'en est remis à lui au sujet des lions et des léopards qui pourraient être des problèmes qu'on peut avoir dans la vie, des attaques de l'ennemi. Et pour ce qui est des colliers de son cou, un de ces colliers, quand on regarde au verset 4, au chapitre 4, son cou est comme la tour de David bâtie pour toutes les armures. Alors je prenais ça pour une des armes qui sont liées à son cou.
Oui. Et si vous allez dans les proverbes, vous verrez ce qui est une guirlande de grâce, ce qui est un collier au cou de ceux qui aiment le Seigneur, c'est de garder l'enseignement de sa parole. Si nous gardons les commandements du Seigneur, vous avez cela, Proverbe chapitre 3, eh bien, ces commandements seront un collier à votre cou. Et le Seigneur est charmé de voir sa parole en quelque sorte incarnée en nous. Oui? Oui?
Moi, je sais que dans l'esprit, il nous faut faire quelque chose que, si on ne sait pas ou on ne correspond pas, c'est comme si on avait tenté, la forme devient troublée. Puis moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé hier et aujourd'hui. C'est que hier, je sais que j'avais aimé partager quelque chose puis, sur le chapitre 3. C'est comme si j'attendais que quelqu'un parle en premier, finalement, la personne qui a parlé, vous avez commencé votre enseignement. Puis là, je sais que c'est comme si j'étais troublé par rapport à ça. Puis je ne sais pas. Si je pourrais partager
encore
cette chose-là, ça peut
être trop. Mais bien sûr. On est toujours dans la liberté de l'esprit.
Bon, pour vous placer dans le contexte un peu, c'est que le début de chapitre 3, ça commençait par la personne, tu sais, qui vient, qui est seule dans son lit, là, qui part dans la ville pour chercher le Seigneur, les gardes, tout ça, puis elle ne trouve pas, ou elle trouve après avoir vu les gardes. Puis ensuite, le chapitre se termine par la prière du roi Salomon qui arrive en grâce, qui est présente là, qui est faite à se manifester pour la vie qui en fait. Puis moi, ce que j'ai vu dans tout ça, c'est que c'est un peu comme, tu sais, quand on ne sent pas Dieu dans notre être, et quand on sent tout qui est là, c'est comme si on avait l'impression qu'il n'était plus là, tu sais, puis que dans le fond, on a à chercher Dieu, on a à chercher à toucher, à connaître sa volonté, mais Dieu reste quand même tout le temps là, reste quand même tout le temps présent. Puis, tu sais, moi, de la façon dont je voyais un peu les gardes, c'est un peu nos feelings, qu'on avait tendance à évaluer un peu notre condition dans le Seigneur, dépendant de l'état de nos sentiments, tout ça. Puis, le roi Salomon, ça, c'est la grosse pensée, tu sais, ta litière qui arrive, tout ça qui apparaît. C'est un peu dans le fond, le Seigneur qui est là, dans le fond, qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, qui est là avec mon armée. Je pense qu'il y a une armée dans tout ça, l'armée céleste, dans le fond, qui est toujours de notre côté, qui a la puissance de Dieu, qui est tout le temps présent, qui est tout le temps prête à se manifester dans nos vies, qui est tout le temps là, puis qui vient vers nous.
Oui. Au fond, nous ne sommes jamais seuls, si nous y pensions bien. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais voilà, ça vient de notre incrédulité. Tout est là. Quelqu'un? Oui.
Dans ton amour. Pour moi, c'est comme une déclaration d'amour de la part du Seigneur. Je me fais réaliser que je prie Dieu de quelque chose qui désire ardemment quand je ne lui manifeste pas mon amour. Je ne croyais pas que Dieu me pouvait tant de charme en fait. Ça m'effleure beaucoup de lui manifester.
C'est incroyable, hein, que le Seigneur trouve tant de charme dans des pécheurs qu'il a sauvés, hein, et que nous devenions son bonheur, sa joie, et que de voir notre amour lui donne au fond tant d'allégresse. Nous le comblons. Trouvez pas que c'est merveilleux? Nous qui sommes si faibles, si petits, si minables, et pourtant, s'il y avait déjà plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, eh bien, nous pouvons penser que maintenant que nous sommes à lui, la joie qu'il peut avoir quand nous lui exprimons notre amour. Quelque chose d'autre? Oui, excuse-moi.
Après le message de ce matin, j'ai médité beaucoup parce qu'on parlait des yeux, de la chevelure des dents. Ça m'a fait réfléchir parce que je sais que notre âme est régénérée en Christ et que nos aspirations sont au ciel. Mais souvent, on a tendance, en fait, personnellement, à des fois se trouver pas nécessairement un peu moche. Ce qui arrive, c'est que j'ai réalisé comment que Dieu nous voyait beau. Et vraiment, ça m'a touchée parce que je voyais que Dieu nous voyait beau, même peu importe ce qu'on a l'air. Il voit une beauté en nous, on est tellement, comme vous dites, on est tellement pécheurs, mais même dans notre corps qui est mort encore, qui n'est pas régénéré, il nous trouve beau dans notre corps.
C'est vrai, parce que c'est lui qui nous a créés. Eh bien, je voudrais croire que les versets qui nous ont occupés ce matin et que nous avons appelés le discours du trône, puisque c'est le roi qui parle, je voulais croire que ces paroles avaient touché nos cœurs. Et la méditation approfondie des 7 premiers versets de ce chapitre nous apporte vraiment un merveilleux réconfort. Et je constate que cela a apporté à plusieurs parmi vous certainement un réconfort. Parce que nous apprenons ce que pense le bien-aimé, notre divin fiancé, de l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Il nous dit lui-même comment il nous voit et quels sont ses sentiments et ses pensées à notre égard. Cessons pour un moment de nous regarder nous-mêmes, de pleurer sur nos taches et sur nos rides. Parce que ce que le Seigneur nous dit dans ce chapitre, ce ne sont pas les paroles d'un séducteur, mais de celui qui nous a prouvé son amour en donnant sa vie alors que nous étions encore des pécheurs impie. si cela est vrai, à plus forte raison donc, nous dit saint Paul, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, Romains 5. Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et je crois que cela éclaire tous les passages que nous avons lus. Nous pouvons maintenant nous glorifier en Dieu. Pas en nous-mêmes, n'est-ce pas, mais en Dieu, de l'œuvre merveilleuse qu'il a faite. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre travail, c'est ce qu'il a fait, ce que Dieu a accompli. Et ce n'est pas rien. Alors je suis persuadé qu'en croyant dans nos cœurs les paroles de notre bien-aimé à notre égard et à l'égard de tous ceux qu'il s'est fiancé, nous reprendrons courage. Parce que cette beauté dont il parle et qu'il voit dans sa bien-aimée, eh bien, vous ne devez pas vous dire c'est seulement à des êtres exceptionnels que le Seigneur parle. C'est seulement pour une élite spirituelle. C'est pour tous ces rachetés. Parce que sa beauté, il veut la mettre dans tous ces rachetés qui forment son corps. Et il n'y a pas une partie de son corps qui doit être méprisée. Relisez le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens et vous verrez que tous les membres sont honorés. De sorte que cette beauté que le Seigneur voit dans son épouse, dans son église, c'est une beauté qui concerne tous les rachetés, le plus faible parmi nous, comme celui qui pourrait se croire plus fort. Mais attention, quand nous nous croyons forts, c'est alors que nous sommes le plus près de la chute. Que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe. Hein. Il n'est pas même dit que celui qui est debout, mais qui se croit debout. Ce qui doit nous occuper, c'est la personne du Seigneur. Eh bien oui, encore une fois, le vrai remède contre toutes nos dépressions quand on est un enfant de Dieu, c'est d'aller nous voir en sa beauté, comme je l'ai cité ce matin. Allons nous voir en sa beauté, disait Jean de la Croix dans son cantique spirituel. Allez se voir en sa beauté. Eh bien, là dans ce chapitre, je trouve que c'est tout à fait cela. Laissez les paroles du Seigneur inonder votre âme d'une joie calme et sereine. Elles nous unissent plus étroitement à son cœur et nous transforment davantage à sa ressemblance. Voyez-vous, vous devriez relire plusieurs fois quand vous êtes découragé ce que le Seigneur pense, lui, de vous. C'est son amour et qui nous transforme. Et après son appréciation générale, « Voici, tu es belle, mon amie », parole que nous avons trouvée répétée deux fois dans ce passage, comme si Jésus disait « en vérité, je vous dis, vous connaissez ces passages, 25 fois dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « en vérité, je vous le dis ». Et c'est merveilleux d'étudier ces 25 passages où Jésus souligne que c'est vrai de vrai. Amen, amen, en vérité, je vous le dis. Et bien là, il dit « que tu es belle, mon ami ». Que tu es belle, c'est vrai de vrai. Je te le dis parce que c'est vrai, parce que c'est comme ça que je te vois, et moi je ne te flatte pas. Et alors, nous reprenons rapidement les 7 traits particuliers qu'il énumère, parce que ce sera pour vous un véritable bain de jouvence, une cure de rajeunissement, et si j'ose dire ainsi, un retour à la santé spirituelle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et en parlant de ce voile, le Seigneur nous dit que nos regards ne sont pas pour le plaisir de tous. Comprenez-vous? Ce voile, nos regards doivent être vus par le Seigneur. Nos regards ne sont pas pour le plaisir de tous. Des yeux, ce sont des yeux qui ne cherchent pas à séduire ou à attirer l'attention sur nous-mêmes. Il y a ce voile, mais le Seigneur voit à travers ce voile. Nos yeux, nos regards sont pour lui. Mais c'est voilé pour beaucoup d'autres. Le voile suggère une certaine réserve en contraste avec la mise en évidence. Oui, les yeux derrière ton voile indiquent une beauté spirituelle qui n'est pas visible aux yeux de tous. Elle est réservée, cette beauté, comme tout ce qui est pour Christ. Ses yeux, miroir de l'âme. Eh bien oui, vous allez rechercher tout ce que la Bible vous enseigne sur la colombe, symbole de la grâce, de la pureté, de la paix, de la simplicité, de la rapidité, symbole du Saint-Esprit. Oui, bienheureux sont vos yeux qui voient. Pour que nos yeux soient des colombes, il a vraiment fallu l'opération de Dieu par la nouvelle naissance. Sans cela, nos yeux ne sont pas des colombes et nous employons nos yeux pour séduire. Et on pourrait parler de l'emploi des yeux. On parle avec nos yeux. On jette des regards de concupiscence, tant d'autres choses. Alors, souvenez-vous, les yeux derrière le voile. Odeur de vie ou odeur de mort. Et certains traits de l'épouse, vous l'avez bien compris, sont figuratifs, alors que la comparaison est symbolique. Alors, la figure, elle est facile à comprendre. Je dirais qu'un enfant en donnerait la signification. Mais le symbole, alors, exige une considération plus mûre. La figure, nous la comprenons immédiatement, mais la comparaison est symbolique. Alors, comment comprendre le langage symbolique, soit de l'Apocalypse, du Nouveau Testament, soit de cet Apocalypse, de cette révélation de l'Ancien Testament, qu'est le Cantique des Cantiques? Eh bien, je dirais que le langage symbolique il s'apprend par son emploi dans les Écritures et par l'enseignement divin. Vous ne comprendrez jamais ce langage symbolique si vous ne lisez pas les Écritures. C'est dans les Écritures, c'est en cherchant tous les exemples que vous pouvez trouver à travers les Écritures que vous comprendrez le sens de ces comparaisons, le sens de ces symboles. Alors, fixons donc nos yeux sur Jésus. Et voyez-vous, nous serons délivrés de tant de choses. Car quand on a les yeux fixés sur Jésus, on ne pêche pas. Celui qui pêche, nous dit l'apôtre Jean, il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. Alors je dis, Seigneur, prends mes yeux. Parce que si je garde, moi, la disposition de mes yeux, je les emploierai pour convoiter. Je les emploierai pour les poser sur toute espèce de choses du monde qui risque de me faire tomber. Que regardez-vous? Quelle est votre vision? Est-ce les choses de ce monde ou bien est-ce que vous cherchez à voir la personne du Seigneur et les choses d'en haut? Car voyez-vous, celui qui le regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Sans qu'il le sache, il rayonne. Moïse, ayant parlé avec lui, son visage rayonnait. Et tout Israël voyait le resplendissement de la face de Dieu sur le visage de Moïse. Étienne, à l'heure même de sa mort, quand on le regardait, son visage resplendissait comme celui d'un ange. Il voyait Jésus. Il ne voyait pas ses ennemis. Et David lui-même nous dit au psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre face ne se couvre pas de honte. Vous voyez la Bible qui s'explique par la Bible. Alors, vers qui tournez-vous vos regards? Toute la question est là. Et maintenant, passons. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galade. Ce pays de Galade, réputé pour son baume. N'y a-t-il plus de baume en Galade? Les cheveux dans l'Écriture. Et là encore, vous aurez des lumières en cherchant tout ce que l'Écriture peut nous dire sur les cheveux. Nous avons souligné que les cheveux, la longue chevelure, c'est la gloire de qui? La gloire de la femme. Sa chevelure devant lui servir de voile avant la chute. 1 Corinthiens 11, verset 15. Et ses cheveux abondants que l'on voit comme un troupeau de chèvres qui descendent de la montagne, vous avez cette image champêtre mais tellement merveilleuse, eh bien, tous ces cheveux-là, que représente au fond ce troupeau de chèvres, donc c'est une grande chevelure, mais qu'est-ce que vous apprenez par l'Écriture? Que chaque cheveu de votre tête est compté. Les cheveux de votre tête sont comptés. C'est si beau et c'est si merveilleux quand on sait cela. Et pas un cheveu de notre tête ne tombe sans la volonté du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous faisons tellement de soucis? Et souvenez-vous de l'emploi qu'a fait la pécheresse de ses cheveux, de ses yeux qu'on emploie pour séduire, parce qu'il y a une séduction dans le regard, une séduction dans les yeux. De ses cheveux aussi, qui sont la gloire de la femme, et qu'un homme aime voir, eh bien, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle met tout cela au pied du Seigneur. Les larmes coulent de ses yeux, et sa chevelure, qu'elle employait pour séduire, elle en fait un linge pour essuyer les pieds du Sauveur. Elle lui manifeste son amour et c'est une pécheresse. Et nous, nous ne lui manifesterions pas notre amour. Puis vous pourriez continuer à traverser la parole et arriver dans Actes 27 au verset 34 où Paul, dans une vision de nuit, alors que le navire va faire naufrage, dit à tous les matelots de reprendre courage parce qu'aucun des cheveux de leur tête ne périra. Le Seigneur le lui a révélé. Et vous pourriez méditer sur la chevelure de Samson, le Nazaréen, la consécration que représente la chevelure, les cheveux d'Absalom. Vous pourriez aussi méditer sur les cheveux blancs et trouver plusieurs passages dans les Proverbes. Les cheveux blancs, signe de sagesse, c'est pas pour moi que je dis ça. Les cheveux noirs, signe de jeunesse, c'est dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y a comme cheveux? Les cheveux de femme, oui, les cheveux blancs. Le chapitre premier hein, du Seigneur. Mais les sauterelles, ce fléau terrible du chapitre 9. Elles avaient des cheveux de femme. Elles étaient comme des chevaux avec des cheveux de femme. Je passe. Les dents. Alors là, vous vous dites, mais quand même, cette histoire de dents, moi j'y comprends rien. Non, vous l'avez trop compliqué. Parce que vraiment, là, quand on médite là, puis on dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par cela? Eh bien, on voit que vraiment, tout correspond. Les dents, ça sert à quoi? À manger, à mâcher, hein? À mâcher la nourriture. Nombre, chapitre 11, verset 53. Mais la comparaison est d'une exactitude parfaite. Des brebis qui ne sont pas tondues. Tes dents sont comme des brebis non tondues. Vous les voyez? Elles sont drôlement jaunes. Et puis, il y a un tas de trucs entre les dents. Et ça carie tout ça. Alors, il faut vraiment que les brebis soient tondues. Pour que on puisse voir cet éclat, cette blancheur. Parce que si vous les lavez mal, eh bien, il reste toutes sortes de choses entre les dents. Hein. La laine devait être enlevée. Il fallait ôter la laine. Les vêtements d'un sacrificateur ne devaient pas être de laine. Pour se présenter devant Dieu, il ne fallait pas la laine. Parce qu'avec la laine, on transpire. Hein. C'était le saint lin. C'était des vêtements de lin qui ne transpirent pas. Alors, mes amis, quand on pense à ce qu'il est dit, bien oui, si ça avait été des brebis non tondues, ça ne ferait pas des belles dents. Ça ferait des dents... Enfin, je n'insiste pas. Alors, il faut vraiment voir ces brebis tondues qui montent du lavoir. Et elles sont merveilleusement régulières, débarrassées de leur laine, eh bien, ces dents nous parlent de la santé aussi, de la régularité, de l'égalité, de la pureté, de la blancheur. Et il a dit, pas une ne manque. Et voyez-vous, ce que nous mangeons conditionne la qualité de nos dents. C'est vrai, hein? C'est faux. Ce que nous mangeons. Si vous prenez trop de sucre, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous aurez des caries. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Parce que les dents révèlent votre état de santé aussi. Que mangeons-nous? Est-ce que nous mangeons sa parole? Ou bien est-ce que nous mangeons toutes sortes de trucs qui nous détruisent? Manger sa parole. Et puis, comme nous l'avons dit ce matin aussi, pour qu'il soit parlé des dents de la bien-aimée, il faut qu'elle sourie. Il faut qu'elle sourie. Croyez-le, nos dents sont révélatrices, spirituellement parlant. Vous avez des taches jaunes? Il n'y a pas de topol dans l'écriture. Passons. Les lèvres, purifiées par le sang, avons-nous. Le sacrifice de la croix. Ces lèvres qui sont comme un fil écarlate. Ces lèvres qui ont réclamé les baisers de la bouche du Seigneur. Elles ont été maintenant purifiées. Et le Seigneur aime ces lèvres où il voit la grâce. Et notre bouche, de laquelle est sortie souvent tant de choses mauvaises, eh bien maintenant, elle est transformée, elle est agréable. Nos paroles sont différentes. Ce sont des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sel. Je me suis permis de revenir un peu sur tout cela pour vous montrer qu'il faut sonder les Écritures, qu'il faut repasser ces choses dans nos cœurs, t'ajoute comme un quartier de grenade, toujours derrière ton voile, modestie, pudeur, beauté cachée, on sait encore rougir. Ton cou, eh bien oui, ce cou qui était sous le joug, maintenant il a été libéré, comme la femme qui était courbée depuis si longtemps dans Luc 13, et que le Seigneur a redressé. Et vous étudiez tout ce qui est dit du cou. Le cou raide, hélas, qui a caractérisé si souvent Israël, bien, ce cou raide, ce n'est pas ces tours dont il est question ici. Parce que, pour que ce soit une tour, il y a eu la régénération. Et je voudrais vous lire un portrait de femme, alors, qui est tout différent de celui que le Seigneur nous fait dans le Cantique des Cantiques. Ésaïe, chapitre 3, verset 16. L'Éternel dit, « Parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu, elles les regardent pleines de convoitise, qu'elles marchent allant à petits pas, faisant résonner leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ça fera plus cette belle chevelure. L'Éternel exposera leur nudité, et ce jour-là, le Seigneur ôtera l'ornement des anneaux de pied, et les petits soleils, et les petites lunes, les pendeloques, les perles, les bracelets, les voiles, tout ce qui peut être donné par le Seigneur, tout cela est maintenant enlevé. Ainsi, nous ne gardons pas cela pour lui. Les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs, les amulettes, les bagues, les anneaux de nez, les vêtements de fête, les tuniques, les manteaux, les bourses, les miroirs, les chemises, les turbans et les voiles de gaze. Et il arrivera qu'au lieu de parfum, il y aura pourriture, infection. Et au lieu de ceinture, une corde. Et au lieu de cheveux artistement pressés, une tête chauve. Et au lieu d'une robe d'apparat, un sarrau de toile à sac. Flétrissure au lieu de beauté. Alors voilà un tout autre tableau. Flétrissure au lieu de beauté. Alors, souvenez-vous de cela. Mais, étant maintenant au Seigneur, eh bien, vous savez que vous lui plaisez. Et souvenez-vous que ce coup qui est devenu comme une tour où l'on peut pendre les boucliers qui sont les symboles des victoires que nous avons eues dans le Seigneur, eh bien, c'est l'œuvre du Seigneur qui permet que nous ayons un coup comme une tour. Nous ne nous courbons pas devant les idoles. Nous sommes comme une tour forte. Et puis, alors, tes saints, j'ai dit quelques mots là-dessus, mais je voudrais simplement vous dire une autre pensée. Ces deux saints. Vous êtes vraiment choqués par cette question, parce qu'il est parlé des saints dans la parole. Et qu'il est parlé des saints de saints. Mais voyez-vous, je ne comprends pas. Le Seigneur ne parle pas des saints nus que l'on voit sur les plages. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de ce que sont les saints, la capacité de l'âme rachetée de transmettre à d'autres la vie divine, parce que c'était pour cela que le Seigneur a fait des saints à la femme, pour qu'elle puisse transmettre à d'autres la vie, à ceux qui sortiraient d'abord de son sein. Mais cela, on n'y pense plus maintenant, à part quelques exceptions. Mais je me souviens encore de la beauté de l'allaitement et de toute une famille réunie dans ces moments-là. Bien oui, le sein était nu, mais c'était le bébé qui se nourrissait. Et c'était une réunion de famille. C'était pas une exposition de nudisme. C'était pas une topless. Maintenant, c'est des topless partout. Avec les bottomless encore. Puis on dit, mais alors, la parole, elle parle de saints. Mais qu'est-ce que c'est que les saints? Nous sommes des tordus, frères et sœurs. Nous ne savons plus ce qui est saint, ce qui est beau. Saint, S-A-I-N. Et S-A-I-N-T. Car les saints sont l'œuvre de Dieu. Et ces deux pharaons, comparés à deux pharaons assez petits et biches, eh bien, j'ai parlé de la réunion de l'état des tribus d'Israël, qui sont vues aussi là, d'une façon prophétique, les deux saints réunis, vraiment. Mais je dirais simplement, puisque les saints sont ce que Dieu a donné pour communiquer la vie, eh bien, ça représente les deux grands commandements de Dieu. Lequel? D'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. L'un des saints, c'est l'amour pour Dieu, et l'autre, c'est l'amour pour le prochain. C'est équilibré. L'un ne va pas sans l'autre. Ces saints qui sont comme des fonds parmi les lys, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et il y a d'autres pensées encore. L'âme a été vraiment recréée par le Saint-Esprit. Et en attendant le développement parfait de toute la beauté de l'épouse, l'épouse se retire dans les conseils de Dieu, dans cette montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens, où nous retrouvons le calvaire Golgotha, dont nous avons tellement besoin pour la fin de la course. Et des lieux célestes, le Seigneur voit son épouse, il la voit toute belle. En attendant que l'aube se lève, en attendant l'heure de son retour, il la voit déjà toute belle. C'est ce que vous avez lu ce soir. Tu es toute belle, mon ami. En toi, il n'y a point de défaut. L'œuvre de la grâce est parfaite. Et alors, se vient viens avec moi du Liban. Ce Liban qui peut représenter au fond les belles choses de ce monde, nous sommes encore dans ce monde, mais il voudrait nous entraîner avec lui. Et il nous appelle toujours sa fiancée. Et vous voyez, comme il a dit deux fois, lève-toi, maintenant il dit deux fois, viens. Viens avec moi, viens du Liban avec moi. Et puis, on est sur des hauteurs spirituelles. On a vu plusieurs expériences avec le Seigneur. Maintenant, on est avec lui, mais sur des hauteurs spirituelles. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons avec lui, parce que peut-être qu'on n'est pas conscient de certains dangers, même quand on est sur les hauteurs spirituelles. Quand le Seigneur nous a fait parvenir à une certaine hauteur spirituelle, c'est là que nous sommes en danger. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons avec lui, parce que sur ces hauteurs, il y a encore des dangers, ces tanières des lions et ces montagnes des léopards. Alors, mes bien-aimés, je reviens encore sur le verset 7. Il n'y a point en toi de défaut. Vous me direz, mais c'est pas possible, moi je suis plein de défauts. Le Seigneur ne peut pas vraiment m'employer. Alors je vous dis simplement ça. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Renier son maître. Quand le Seigneur l'a eu restauré, qu'est-ce qu'il a osé dire à la foule à Jérusalem ? Vous avez renié le Saint et le Juste. Il est tellement délivré de son passé et de ses fautes que, au fond, il ne s'en souvient plus. Et il peut dire aux autres, vous avez renié le Saint et le Juste. On aurait pu lui dire, mais Pierre, c'est toi qui l'as renié le premier. Et non, il est délivré. C'est passé, le Seigneur ne revient plus sur ce passé. Pourquoi est-ce que vous remis toujours avec vos péchés passés ? Oui ou non, est-ce que le Seigneur les a expiés ? Et quand vous lisez le psaume 103, pénétrez-vous de cela pour que vous n'ayez plus toujours cet esprit d'accusation et de culpabilisation qui vous ronge, parce qu'alors vous déshonorez le Seigneur. Et vous devriez relire ce psaume 103, mais comme on doit le lire, et vous entendrez ces paroles qui dit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de qui ? De nous. » Or, la plupart des gens, quand ils lisent ça, ils croient que c'est de lui. C'est vrai que c'est derrière son dos aussi. Mais il n'est pas dit qu'il les a éloignés simplement de lui, mais il les a éloignés de nous, pour que nous ne vivions pas toujours dans le souvenir de ce passé. Vous êtes libérés de ce passé. Oubliant les choses qui sont derrière, vous tendez maintenant avec effort vers celles qui sont devant. Quant à votre passé, le sang du Christ le couvre. Quant à votre présent, vous êtes dans la grâce de Dieu. Et quant à votre avenir, qu'est-ce qui vous attend ? La gloire. Hein ? Pour le passé, la paix avec Dieu. Pour le présent, la grâce continuelle de Dieu. Et pour l'avenir, la gloire. Voilà ce qui est certain. Alors, maintenant vous allez avec lui du Liban, et puis avec lui, vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver. Et quand vous méditez sur ce mot « vient », vous pensez au chapitre, au dernier chapitre de l'Apocalypse, où ce mot revient souvent. Viens, viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui a soif vienne. Nous sommes constamment invités à venir. Et à venir avec lui. J'ai dit, il y a le viens à moi, et puis maintenant, les trois petits mots, viens avec moi. Le viens à moi, c'est la conversion, mais ensuite le viens avec moi, c'est la sanctification, c'est la sécurité, c'est ce dont nous avons besoin. Nous ne ferons plus rien sans Christ. Et voyez-vous, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que nous avons toute chose avec qui ? Avec Christ. Nous avons toute chose maintenant avec Christ. Il n'y a aucune chose qui puisse nous manquer. Tout est en Christ et nous avons tout avec lui. Et notre unité avec Christ, vous pouvez aussi la voir sous cet aspect divers. Disons, on est crucifié ensemble. On est vivifié ensemble. On est ressuscité ensemble. Donc avec Christ. On est assis ensemble dans les lieux célestes. On est héritier ensemble. On est dans la souffrance ensemble, mais on est aussi glorifié ensemble. Comme on l'a vu l'autre jour, Abraham et Isaac marchaient ensemble. Nous aussi, nous marchons avec notre Père des cieux. Et ce qui me touche pour terminer, quand le Seigneur dit tout à coup, verset 9, quand on est avec lui, il nous entretient, il nous protège, tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa parole incarnée en nous. Que de charme ont tes amours, ma sœur, ma fiancée. Il trouve son plaisir dans votre amour, dans votre tendresse, dans vos caresses. Que tes amours sont meilleurs que le vin, au fond, ce qu'a souligné notre sœur, il a au fond les mêmes goûts que la fiancée, et la fiancée a les mêmes goûts que lui. C'est cette unité merveilleuse, l'odeur de tes parfums, plus que toutes les aromates. Avant, c'était la fiancée qui disait que ses parfums étaient d'une odeur suave. Et maintenant, lui, il retrouve ses parfums dans sa fiancée. C'est l'unité merveilleuse. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel. Alors, méditez aussi là-dessus. Comment se fait le miel? Par le travail de qui? Des papillons? Non. Vous avez vu la différence entre les papillons et les abeilles? Les papillons, ils vont d'une fleur à l'autre, un petit peu ici, un petit peu là, hein. Mais ils ne récoltent pas grand-chose. Hein. Tandis que l'abeille, elle va sur toutes les fleurs, hein. Elle butine toutes les fleurs, et puis elle travaille. Et cela produit du miel. Et si vous voulez comprendre l'écriture, ne soyez pas papillons. Hein. Est-ce que vous êtes des papillons? Vous n'en montrez pas grand-chose. Ou bien est-ce que vous voulez être les abeilles? Il butine. Et alors, vous aurez tout ce que signifie le miel, cette parole qui est plus douce que le miel, et puis sous ta langue, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous ta langue? Du venin d'aspic, c'est ce que vous avez dans le chapitre 3 des Romains. Il y a sous leur langue du venin d'aspic. Tandis que sous la langue d'un être régénéré, il y a du miel. Et puis quoi? Du lait. Du lait. Au fond, on est dans le pays de lait et de miel. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Nous prions. Ô Dieu, nous voulons apprendre à méditer ta parole. Et nous voulons te demander que tu nous donnes d'être semblables aux abeilles, afin que nos vies produisent quelque chose de ta douceur à toi. Quelque chose en nous qui vient de toi et auquel tu pourras prendre plaisir. C'est tellement bouleversant de penser que tu peux te retrouver en nous, comme nous, nous nous trouvons en toi. C'est l'union. Tu peux te reconnaître en nous. Oh, nous voudrons te demander que nous ayons vraiment ce désir. Que tu puisses te reconnaître en nous. Et si toi, tu peux te reconnaître en nous, nous savons que les âmes que tu veux sauver pourront être aussi atteintes par le témoignage des tiens. Et que tu seras rendu visible à tous ceux qui veulent voir pour croire. Seigneur notre Dieu, nous te supplions de nous vaincre et de nous donner, après avoir entendu ce que tu penses de nous, que nous puissions croire cela, que c'est vrai, être enfin libérés de toutes nos tristesses qui sont des mauvaises tristesses et qui te déshonorent, et que nous puissions nous réjouir de ce que tu as pu nous dire de chacun de nous, de ce que tu vois de ton œuvre en nous, cette œuvre que tu rendras parfaite. Nous te demandons ces choses en te priant de nous accorder une nuit de repos, de bénir notre Eva qui va nous quitter ce soir, de la garder dans ce voyage à Montréal, dans ses activités à l'hôpital, et de nous la ramener, Sénesso, dans ton amour. Que tu veuilles aussi nous restaurer spirituellement, physiquement, pour que nous puissions continuer la tâche qui est devant nous. Et que tu nous donnes cette nuit, aux uns et aux autres, ton repos.